Théologie fondamentale, 10 mars 83, Rimont, Père Philippe.
Nous avons donc vu l'article 1er où saint Thomas traite de l'objet de la foi, pour montrer que l'objet de la foi est la vérité première, qu'il s'agisse de la raison formelle de l'objet. C'est un terme technique, il ne faut pas l'oublier. C'est un terme technique difficile à bien comprendre, il faut le reprendre souvent. La différence entre l'objet, la raison formelle de l'objet, et l'objet matériel. L'objet matériel, ceux qu'on connaît, ceux qui est connu, et la manière, la lumière sous laquelle nous le connaissons. L'aspect formel sous lequel nous connaissons. On peut connaître une réalité sous des aspects très différents. On peut connaître l'homme dans la lumière de la science biologique. On peut connaître l'homme dans la lumière de la philosophie, et dans la philosophie sous le point de vue éthique, sous le point de vue artistique, et ainsi de suite. Il y a des raisons formelles différentes sous laquelle on connaît la même réalité. Alors la raison formelle donc exprime ce qui nous permet de saisir de la réalité. Vous voyez, aujourd'hui, quand on voit son et lumière, hein, c'est tout à fait ça. Quand on projette une lumière, vous savez, pour montrer les âges différents d'un château, d'une église, alors on jette une lumière uniquement sur un aspect, puis une autre lumière sur un autre aspect. Là, on connaît très bien la ratio formalis, la raison formelle de l'objet. On ne voit que cela, et uniquement. Le reste est dans les ténèbres. Et c'est toujours la même réalité qu'on connaît, mais sous des aspects différents. Alors, on comprend très bien que le théologien de théologie scientifique, parce que le croyant ne se pose pas la question, vous allez demander à un croyant, sous quelle raison formelle vous croyez ? Hein, vous voyez, question catéchisme, hein, au petit gosse, hein, sous quelle raison formelle tu crois ? Il dira, je crois, et puis c'est tout. Et puis la définition de la foi, on ne le dit pas. Mais le théologien se pose la question, quel est ce qui est l'objet de la foi ? Alors on dit tout de suite, l'objet de la foi, il est double. Parce que j'adhère au mystère de Dieu, j'adhère au mystère de l'homme. Chaque fois que Dieu se révèle à nous, il nous révèle ce qu'est l'homme, et chaque fois qu'il révèle ce qu'est l'homme, il se révèle à nous. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, justement, dans l'Écriture, il y a des quantités de réalités qui sont révélées. Mais tout est révélé sous la même lumière, parce que nous y adhérons en tant que c'est Dieu qui nous révèle Dieu, la vérité première, qui est la raison formelle sous laquelle j'adhère à l'Écriture. Donc la raison formelle de la foi, c'est la vérité première, ut révélance, comme dira Cachetan. Ut révélance, saint Thomas dit simplement la vérité première qui se manifeste à moi, qui se révèle à moi. Alors, ut révélance, c'est très juste de dire ça. C'est la vérité première ou révélance. Et l'objet matériel, c'est tout ce qui m'est donné dans l'Écriture. Et non seulement dans l'Écriture, mais aussi dans l'enseignement de l'Église. Puisque l'Église continue la révélation. Sous un autre mode, mais continue la révélation. Alors il n'y a pas deux raisons formelles, hein. La raison formelle de la révélation et la raison formelle de l'Église, comme certains disent, il y a une foi ecclésiale, vous savez. Ça a été à la mode un certain temps. Alors on disait ça. Tandis que si j'ai la foi dans le Christ, j'ai la foi dans l'Église. Et l'Église, quand elle m'enseigne, c'est le Christ qui m'enseigne par l'Église. C'est la vérité première qui continue sous une autre manière de me révéler. Mais il n'y a pas deux raisons formelles différentes. C'est la parole de Dieu. Et saint Thomas ne fait pas de distinction, vous voyez. Il ne faut aucune distinction. C'est Dieu qui continue de me parler à travers l'enseignement du Saint-Père, c'est toujours la vérité première, autre révélante, mais qui a des objets différents. Alors, la grande astuce de saint Thomas dans cet article premier, c'est de montrer que la multiplicité des réalités révélées, toutes se réfèrent à Dieu. Donc, la vérité première est à la fois la ratio formalis objecti, la raison formelle de l'objet, et en même temps l'objet auquel je crois, puisque tout est relatif à Dieu. Dans le regard de la révélation, l'homme est relatif à Dieu. J'adhère à l'homme en tant qu'il est relatif à Dieu. Et c'est comme ça qu'il n'y a pas de théologie politique. Il y a une théologie de l'homme. C'est très important, ça. Et donc, il y a une pastorale de l'homme. Et il n'y a pas de pastorale sociologique. C'est impossible. C'est impossible. Une fois qu'on a compris ça, tous les murs dégringolent. N'est-ce pas ? Parce qu'on ne peut pas faire une pastorale sociologique. On ne peut faire qu'une pastorale dans la lumière de la révélation, puisqu'on est témoin de la vérité. Et témoin de la vérité, c'est continuer le message du Christ. Et donc, c'est se mettre dans cette lumière où on regarde l'homme en tant qu'il est capax dei, en tant qu'il est capable d'être ordonné vers Dieu. C'est la seule chose qui m'intéresse, de regarder dans l'homme. C'est l'homme en tant qu'il est capable de recevoir la révélation. C'est l'homme en tant qu'il est capable d'être converti par le Christ. En tant qu'il est capable d'être révélé par le Christ. D'être sauvé par le Christ. Or, il n'est pas sauvé par le Christ au niveau sociologique. Je vous ai déjà dit ce petit dialogue que j'avais eu une fois avec un prêtre ouvrier. J'avais dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'homme. Parce que seul l'homme peut être sauvé. L'ouvrier comme ouvrier n'est pas sauvé. Il est sauvé parce qu'il est un homme, mais pas parce qu'il est ouvrier. Et la révélation regarde le cœur de l'homme et l'intelligence de l'homme. Et regarde l'homme dans sa totalité. Tout l'homme est regardé dans la révélation. Mais en tant qu'il est en référence avec Dieu. Et non pas en tant qu'il acquiert telle ou telle autonomie, telle ou telle... Ça, c'est différent. Alors, si vous regardez le point de vue sociologique regarde le conditionnement de l'homme engagé dans telle ou telle culture, bien évident, c'est engagé dans telle ou telle culture, alors vous voyez, à ce moment-là, la pastorale africaine, la pastorale du diocèse d'un diocèse de France, pour ne pas les nommer, n'est-ce pas, ce sera différent, ce sera quelque chose de très très différent. Alors que le sacerdoce est le même, c'est embêtant. C'est le même prêtre. Hein. Il n'y a pas de distinction entre un prêtre qui est en Afrique et un prêtre qui est en France. C'est le même Christ. Et le Christ n'est pas plus européen qu'il n'est africain. Parce qu'il n'est pas européen. Alors c'est le même Christ, parce que le Christ est au-dessus des cultures. Il n'est même pas enfermé dans la culture d'Israël. Il est au-dessus des fils de Dieu. Donc il est au-dessus. Et c'est lui qui me donne la lumière. Et c'est sa lumière que je transmets. Oui, c'est pour ça que cet article premier, il est capital. Une fois qu'on a compris ça, je vous affirme que tout le reste, hein, c'est vite balayé. C'est vite balayé une fois qu'on a compris que la vie apostolique consiste d'être des témoins de la lumière. C'est dit dans le prologue de saint Jean, Jean-Baptiste. Il est l'envoyé. Et en tant qu'envoyé, on est des témoins de la lumière. Donc être des témoins de la lumière, c'est de pouvoir refléter cette lumière. Alors il y a des quantités de problèmes, savoir comment pourra se communiquer la vérité. C'est bien évident. C'est sûr. Ça, c'est tous des problèmes de base. Hein. Mais c'est des problèmes de base, c'est pas des problèmes qui viennent d'en haut. Alors ne confondons pas la cause matérielle et la cause formelle. Hein. Parce que si on confond les deux, ça devient très grave. La sociologie vient de la cause matérielle, des dispositions, mais pas de la finalité, puisqu'elle ne touche rien à la fin. Et elle ne peut pas saisir la fin. Alors elle ne peut pas déterminer. Et elle ne peut pas déterminer des méthodes apostoliques. Parce que la méthode se prend du côté de l'objet. Et pas du côté de la disposition. Ça prend du côté de l'objet, si j'ai une bonne méthode. Autrement, elle me fausse tout. Alors, il s'agit de comprendre cela. Et on doit le comprendre au niveau théologique. Hein, c'est ça qui est important, c'est de le comprendre au niveau théologique. Comprendre au niveau théologique ce qu'est le mystère de la foi. Et comment nous sommes des témoins de la lumière. Parce que la foi nous donne cette lumière. Alors, vous allez voir maintenant l'article 2, qui est très intéressant, qui est capital aussi. Hein, les deux articles se tiennent. Est-il quelque chose de complexe ou d'incomplexe, c'est-à-dire une réalité ou un énoncé? Donc l'objet de la foi est-il quelque chose de complexe? Alors voici comment saint Thomas se pose la question. Alors regardons, si vous voulez, puisque nous avons le temps, regardons les difficultés posées au point de départ. La question. Apparemment, non. Il semble que l'objet de la foi n'est pas quelque chose de complexe, par mode dénonciable. Puisque cet objet est la vérité première, et qu'elle est quelque chose d'incomplexe. La vérité première est indivisible. Si la vérité première est indivisible, il est bien évident que l'objet de la foi n'est pas quelque chose de complexe. Donc l'objet de la foi ne peut pas se dire par mode dénonciable. C'est très ennuyeux pour le credo. Eh bien, toute une quantité de gens diront, mais le credo, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est adapté à telle époque, et puis c'est tout. D'où l'herméneutique du credo. Parce que c'est adapté à telle époque, ça n'a rien à voir avec l'objet de la foi, vous comprenez bien. L'objet de la foi, la vérité première, c'est quelque chose d'absolument indivisible, et c'est quelque chose de transcendant. Ça dépasse tout. L'énonciable. Les propositions de foi qui sont dans le credo, les propositions de foi qui sont données à travers les conciles, c'est donné à travers les énonciables, les conciles, hein? C'est donné à travers des propositions. Alors, est-ce que c'est objet de foi? Vous voyez le dilemme, hein? Il faut saisir bien le dilemme entre les deux. Donc, le transcendant indivisible, ici, quelque chose de complexe. C'est complexe, ça, les propositions de foi. Alors, si c'est complexe, est-ce que c'est objet de foi alors que vous dites que la vérité, que l'objet de foi regarde la vérité première? Vous voyez là, ça c'est très intéressant. Là, c'est le lien entre le point de vue humain et le point de vue divin. C'est l'incarnation de la lumière. C'est la manière dont la lumière qui vient de la vérité première va être tombée dans le nous, dans l'intelligence humaine. Alors vous voyez l'opposition. L'opposition, elle est nette et elle est actuelle. Hein. Dites-vous bien qu'elle est actuelle. Parce que où vous optez pour dire l'objet de foi, c'est la parole de Dieu. Bon, la parole de Dieu se donne dans un énonciable. Alors c'est la parole de Dieu, c'est quelque chose de relatif. Où vous dites l'objet de foi, c'est transcendant. Et donc la parole, ça suggère. C'est un véhicule, n'importe quoi, un véhicule. Karl Barth vous dira, la vérité de foi, absolument transcendante, indivisible. Toutes les propositions, c'est quelque chose de relatif. C'est totalement relatif, donc ça n'a rien à voir. Les modernistes diront aussi exactement la même chose. Donc c'est une position, chez les modernistes, c'est dit d'une façon très nette, chez les modernes, c'est dit moins nettement, parce qu'ils savent que les modernistes sont les modernistes. Alors, ils ne sont pas modernistes. Mais en fond, c'est exactement la même chose. Il faut voir comment les modernistes traitent cette question de la foi. C'est intéressant. Pour eux, la foi est uniquement interne. L'expérience de la foi. Le véhicule dans lequel on est, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est quelque chose de tellement relatif. Oui, c'est l'écorce. Alors, l'écorce... pas d'importance. Ce qu'on veut, c'est la moelle. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre l'écorce et la moelle? Ou est-ce que non? C'est purement relatif. Alors, ça dépend des moments. Deuxième objection. De plus, l'exposé de la foi est contenu dans le symbole de foi. L'exposition dit « continetur in simbolo » dans le symbole. Or, dans le symbole, il n'y a pas des énoncés, mais des réalités. Il n'est pas dit que Dieu soit tout-puissant. Il y est dit « Je crois en Dieu tout-puissant ». L'objet de la foi n'est donc pas une vérité à énoncer, mais la réalité. Là, vous voyez, là, c'est très subtil. Hein, c'est très subtil, cette seconde objection. C'est de montrer que l'adhésion de foi adhère à la réalité et non pas à l'énoncé. C'est évident, quand il s'agit d'un jugement, vous adhérez à la réalité et vous n'adhérez pas à l'énoncé. Quand vous dites « ceci est jugement d'existence », est-ce que vous adhérez à « ceci est » ou à ce qui est exprimé, signifié par « ceci est » ? Donc, là encore, on relativise l'énoncé. Troisième objection, en outre, vous voyez, ça va, on cumule les objections. C'est toujours pour montrer la distance qui existe. Et c'est ça l'intérêt. C'est montrer la distance qui existe entre la réalité transcendante et ce qui est immanent à mon intelligence humaine. Ce qui est immanent à mon intelligence humaine, c'est l'énonciation. L'énonciation est immanente à mon intelligence humaine. Alors, il y a un hiatus entre les deux. Troisième objection. En outre, à la fois succède la vision, selon les mots de l'apôtre. Nous voyons pour l'instant par un miroir, en énigme, mais alors ce sera face à face. Pour l'instant, je connais en partie, mais je connaîtrai alors tout comme je suis connu. C'est la fameuse parole qui est si belle. Vidimus nunc perspeculum in enigmate tun quantem faciet faciem. Or, cette vision de la patrie, puisqu'elle a pour objet l'essence divine elle-même. La vision de la patrie, elle est incomplexe, puisqu'elle regarde l'essence même de Dieu. Or, l'essence même de Dieu est absolument indivisible, donc la foi également est quelque chose d'indivisible. Puisqu'il y a un lien entre foi et vision, et que la vision se fait dans le face-à-face de la vision de Dieu, nécessairement, la foi doit être quelque chose d'absolument indivisible. Autrement, il y aurait un hiatus entre les deux. Donc, voyez, les objections tendent, et c'est intéressant à voir, parce que les objections tendent à mettre une coupure complète entre le point de vue de l'énonciation et le point de vue de la réalité à laquelle j'adhère. C'est au fond un problème critique. C'est un problème critique, ça. Si vous étiez dans la peau de Descartes, si vous étiez dans la peau de Descartes ou dans l'intelligence du cogito, c'est pour ça que c'est dans la peau de Descartes. Si vous étiez dans la peau de Descartes, je comprends très bien ces objections. Quand j'adhère à l'idée, je n'adhère pas à la réalité. Cogito, je pense à quelque chose, je pense à une idée. Donc, ce n'est pas la réalité. Donc, les propositions, les idéas, l'idée, j'adhère à l'idée, l'idée est un quad, une pente. Alors, je reste enfermé dans mes idées. Je peux en rester enfermé dans la parole de Dieu. Je peux rester enfermé dans les propositions de foi. Je peux rester enfermé dans le symbole de foi. Le symbole de foi, je peux rester enfermé dedans. J'ai ces catholiques de droite qui restent enfermés de droite, de sacrée droite, qui restent enfermés dans le symbole. Et il ne faut pas bouger un iota. Exactement, il ne faut pas bouger un iota. Alors, rester là, c'est quelque chose d'absolument enfermé. Je reste enfermé dans le symbole. C'est cartésien. C'est poteliste. C'est ce que nous allons voir. Hein. C'est très important, ça, vous savez, parce que les divisions qu'on fait aujourd'hui, hein, entre, d'une part, traditionnalistes, intégristes, progressistes, derrière tout ça, il y a une conception de la foi. Fondamentalement, il y a une conception de la foi. Il faut la comprendre, il faut la saisir pour n'être ni intégriste, ni progressiste, et être chrétien. C'est-à-dire croyant. Et puis on renvoie promener. Parce qu'on n'est ni de droite ni de gauche, on est chrétien. On n'est ni de droite ni de gauche. On est chrétien, c'est tout. C'est la transcendance de Dieu qu'on vise. C'est pas autre chose. Alors il faut bien comprendre cela, il faut bien le saisir pour que quand on est en face d'un adversaire, on comprenne le défaut de la cuirasse. Puis une fois que vous avez saisi le défaut de la cuirasse, vous enfoncez là, non, vous secouez bien jusqu'au moment où ça dégringole d'un seul coup. Parce que c'est une cuirasse. Des deux côtés, c'est ça qui est très curieux, hein. Des deux côtés, voyez, les progressistes, ils disent aucune espèce d'importance, c'est la transcendance. Ils ont pas du tout, il faut être très attentif à la forme. Proposition de foi, on ne peut pas bouger ça, on ne peut pas, absolument pas. Si vous bougez tant soit peu, tout le système craque. Attention, est-ce que c'est la parole qui est l'absolu ou est-ce que c'est la vérité première? Mais d'autre part, attention, la parole, c'est très important puisque c'est à travers la parole que j'adhère à la vérité première. Oui, alors on a deux positions extrêmes, c'est intéressant, et c'est cet article 2. Hein. C'est cet article 2 de saint Thomas qui nous donne la clé. Si on veut la comprendre bien. Ce n'est pas l'article premier. L'article premier, il est trop transcendant. Alors, il ne donne pas la solution. Tandis que l'article 2, il me montre la manière dont la lumière divine se réfracte dans l'intelligence humaine. Ah, ça devient quelque chose de très beau. Alors, voyons tout de suite la réponse de sept contrats. Donc, après, les objections... On voit le sept contrats. La foi est intermédiaire entre la science et l'opinion. C'est très curieux comment quand saint Thomas commence. Hein. Ça, c'est extraordinaire. Fides est media inter scientiam et opinionem. La foi est intermédiaire entre les deux. Donc saint Thomas commence par cette petite réflexion. Qu'est-ce que c'est que la foi? Et vous voyez, il est très conscient que la réponse dépend de ça. La foi est intermédiaire entre la science et l'opinion. La foi n'est ni science ni opinion, ni l'une ni l'autre. Elle est intermédiaire entre la science et l'opinion. Or, un intermédiaire est du même genre que les extrêmes. Comme la science et l'opinion aboutissent à des énoncés, il semble donc que pareillement la foi doive aboutir à des énoncés. Ainsi, l'objet de foi, s'il est vrai que la foi aboutisse à des énoncés, est quelque chose de complexe. Ah, ça c'est très curieux, hein. C'est très très curieux comme sept contrats. Vous voyez que saint Thomas ne prend pas une parole divine, hein, parce qu'il n'y a aucune parole divine qui dit ça. On est vraiment là en face d'une conception de la foi, conception théologique de la foi. Et donc, il s'agit de répondre à cette conception théologique de la foi. Eh bien, on voit que la foi est intermédiaire. C'est vrai que la foi est intermédiaire. Qu'est-ce que ça veut dire quand saint Thomas nous dit ça? Saint Thomas veut dire que la foi, comme la science, comme l'opinion, a quelque chose avec l'intelligence humaine. Je ne peux pas séparer la foi de l'intelligence humaine. Quand je crois, mon intelligence humaine coopère. C'est sûr. Quand je crois, mon intelligence humaine coopère. C'est quelque chose qui implique l'intelligence humaine. Je ne peux pas séparer la foi de mon intelligence humaine. Ça, c'est très, très important. La grâce présuppose la nature. La grâce ne tient pas toute seule. Non, c'est l'homme qui est sanctifié. C'est l'homme qui est sanctifié. Eh bien, c'est l'intelligence humaine qui est l'intelligence d'un croyant. Il n'y a pas un croyant à l'état pur. Un croyant à l'état pur, ça n'existe pas. Il y a une intelligence illuminée par la foi. Et c'est pour ça que saint Thomas met les deux extrêmes. L'intelligence, la science. Voilà. L'intelligence humaine est à la fois une intelligence qui atteint la science et qui atteint l'opinion. C'est vrai, ça, c'est les deux choses. L'intelligence peut être du côté scientifique, l'intelligence peut être du côté de l'opinion. La foi est entre deux. Or, maintenant je comprends, or, toute opération de l'intelligence implique une énonciation. Donc, la foi implique une énonciation. Oui, voilà le raisonnement qu'il donne. Ça, c'est le 7 contrat. Maintenant, il s'agit de voir le corps de l'artiste. Parce que le 7 contrat, c'est simplement montrer que ce n'est pas imbécile de poser la question. Et c'est vrai que c'est important de poser la question. Alors, voici la réponse de saint Thomas. Les choses connues sont dans le sujet connaissant, suivant sa manière à lui. Cognita sunt in cognoscente secundum modum cognoscentis. Ça, c'est un principe très important pour saint Thomas. Toutes les réalités connues, dans la mesure même elles sont connues, sont dans le connaissant selon le mode même du connaissant. Autrement dit, c'est l'immanence de la connaissance. Quand vous connaissez quelque chose, vous le portez en vous. Et ce quelque chose que vous le portez, ce quelque chose que vous portez en vous, vous le portez selon votre manière propre de le connaître. Selon vos mœurs de connaissant. Or, il est une manière propre à l'intelligence humaine, comme nous l'avons dit dans la première partie, c'est de connaître la vérité par composition et division. L'intelligence n'aboutit à la vérité que par composition et division. L'intelligence n'est pas intuitive. L'intelligence ne saisit pas directement la réalité. Mais elle saisit la réalité toujours par composition et division. Ceci est, ceci n'est pas. Affirmation et négation. L'affirmation implique une composition, ceci est, parce que vous liez le verbe et le nom. Et chaque fois que vous voulez exprimer la vérité, il y a toujours un verbe. Et donc c'est le verbe lié au nom. Un verbe n'existe jamais tout seul. Alors, chaque fois qu'il y a la vérité, il y a le verbe. Et le verbe est lié toujours au nom. Donc, vous saisissez toujours la vérité par mode de composition. Vous ne pouvez pas saisir la vérité en dehors d'un mode de composition. Et quand vous niez, vous rejetez la composition. Vous dites, ceci n'est pas. Voilà pourquoi... des choses simples en soi, l'intelligence humaine les connaît suivant une certaine complexité. De même qu'à l'inverse, l'intelligence divine connaît d'une manière incomplexe des choses qui en soi sont complexes. Nous sommes d'une complexité extraordinaire et Dieu nous connaît dans la simplicité de sa connaissance. Nous ne sommes simples qu'en Dieu. C'est merveilleux. Alors en Dieu, on est simple. Et Dieu nous connaît dans la simplicité même de sa contemplation. C'est merveilleux, ça. Il y a au moins un lieu où on est simple. En dehors de Dieu, on est dans la complexité. On est dans la complexité. Et nous, quand nous voulons connaître des choses simples, plus elles sont simples, plus nous les connaissons d'une manière complexe. Ça y vient. Les grands artistes essaient à la fin de leur vie de simplifier, de simplifier, de simplifier, de simplifier. Ils y arrivent de temps en temps, mais pas toujours. C'est très beau ça, hein? C'est très beau cette argumentation de saint Thomas. Et c'est très grand. Voilà pourquoi des choses simples en soi, en elles-mêmes, l'intelligence humaine les connaît suivant une certaine complexité. Tout ce que l'intelligence connaît, elle les connaît par un mode de complexité. Complexité d'affirmation, de négation. C'est ce qui fait qu'on peut considérer l'objet de la foi de deux façons. Ah, voilà la réponse. On peut le prendre du côté de la réalité même à laquelle on croit. Et à cet égard, il est quelque chose d'incomplexe. L'objet de la foi, c'est la vérité première. Or, la vérité première est quelque chose de simple. Donc, l'objet de la foi est quelque chose de simple. Il est la réalité même à laquelle est fixée la foi, à laquelle la foi adhère. Autrement, on le prend du côté du croyant. Alors, du côté du croyant, Et à cet égard, l'objet de foi est quelque chose de complexe, à la manière d'un énoncé. C'est pourquoi les deux opinions ont été soutenues avec vérité chez les anciens. C'est merveilleux comme juge. Il y a des choses de vraies des deux côtés. Et c'est très vrai, hein. C'est ça qui est intéressant, s'il y a quelque chose de vrai des deux côtés. Il y a du vrai dans l'une et dans l'autre. Alors, vous voyez bien, si je regarde l'objet de la foi, je peux le regarder en tant que je regarde la réalité à laquelle j'adhère. À ce moment-là, il est bien évident que l'objet de la foi est quelque chose d'absolument simple. Si je regarde au contraire l'objet de la foi du côté du croyant, par quoi j'atteins cette réalité ? Le quo, pas le quad. Et nous retrouvons le quo et le quad. Qu'est-ce que j'adhère à la vérité première ? Alors, du côté du croyant. Et à cet égard, l'objet de foi est quelque chose de complexe, à la manière d'un énoncé. C'est pourquoi les deux opinions ont été soutenues avec vérité chez les anciens. C'est merveilleux comme juge. Il y a des choses de vraies des deux côtés. Et c'est très vrai, hein. C'est ça qui est intéressant, s'il y a quelque chose de vrai des deux côtés. Il y a du vrai dans l'une et dans l'autre. Alors, vous voyez bien, si je regarde l'objet de la foi, je peux le regarder en tant que je regarde la réalité à laquelle j'adhère. À ce moment-là, il est bien évident que l'objet de la foi est quelque chose d'absolument simple. Si je regarde au contraire l'objet de la foi du côté du croyant, par quoi j'atteins cette réalité ? Le quo. Pas le quad. Et nous retrouvons le quo et le quad. Qu'est-ce que j'adhère à la vérité première ? Ça, c'est le quad. Absolument simple, indivisible. Comment j'adhère à cette vérité première ? Le quo. Alors, ce par quoi j'atteins cette vérité première ? J'atteins par l'énoncé. Et l'énoncé est quelque chose de complexe. Parce que la foi ne détruit pas mon intelligence humaine. La foi surélève mon intelligence humaine, mais la foi ne détruit pas mon intelligence humaine. Je connais de la même manière si je suis croyant ou si je ne suis pas croyant. J'ai la même structure d'intelligence. C'est pour ça que la philosophie demeure. C'est pour ça qu'entre croyant et incroyant, il y a la même philosophie de l'intelligence humaine. Parce que la foi ne touche pas à la structure profonde de ma connaissance humaine. Comme la grâce ne détruit pas la structure profonde de ma nature humaine. Ma nature humaine demeure la même. Et la grâce surélève. La foi surélève mon intelligence, mais ne détruit pas ma manière de connaître. Je connais de la même façon. Or, humainement, je connais par composition et division. Donc, nécessairement, mon adhésion de foi va impliquer un mode complexe. Et c'est pour ça que l'énoncé de la foi sera selon un mode complexe. Et je me sers d'un énoncé complexe pour atteindre quelque chose d'indivisible. Vous voyez comme c'est important, ça. C'est de montrer la finalité et l'objet propre de la foi, quelque chose d'absolument transcendant. Mais je l'atteins selon un mode complexe, à ma manière d'homme, et non pas à ma manière angélique. Je ne suis pas un ange, donc j'ai une connaissance par mode complexe. Si j'étais un ange, alors à ce moment-là, ce serait très différent. Le credo d'un ange, ils n'ont plus le credo, puisqu'ils sont au-delà de la foi. Mais avant qu'ils aient la vision béatifique, ils n'avaient pas besoin de credo. Ils n'avaient pas besoin de credo, parce qu'ils connaissaient intuitivement. Alors leur foi avait ce mode intuitif. C'est pour ça que la foi angélique était différente de notre foi, dans leur manière d'exprimer. Tandis que pour nous, notre manière d'exprimer implique nécessairement quelque chose de complexe. Alors vous voyez tout de suite hein, comment les deux positions extrêmes ne respectent pas cette double manière, à la fois divine et humaine. Un croyant reste un homme, mais un homme éclairé par Dieu. Alors, le point de vue, voyez, le point de vue de ne voir que la transcendance, c'est oublier le mode humain, et ne regarder que l'immanence, c'est oublier la lumière divine. Vous allez tout de suite maintenant comprendre la réponse aux objections. Puis alors je vous demanderai si vous avez des questions, parce que c'est important. Cette raison, donc la première objection, la première objection qui disait que l'objet de la foi est première, cette raison est valable lorsque l'objet de foi est pris du côté de la réalité même à laquelle on croit. Bien évident. Du côté de la réalité crue, c'est la vérité première, elle est indivisible. Alors, seconde objection, dans le symbole, comme le montre la manière même de parler, on cherche à atteindre les choses de la foi, les réalités de la foi, dans toute la mesure où s'y fixe l'acte du croyant. Or, l'acte du croyant ne s'arrête pas à un énoncé, mais se fixe à la réalité. Nous ne formons en effet les énoncés que pour avoir connaissance par eux des réalités, aussi bien dans la foi que dans la science. C'est vrai. Mon adhésion de foi, mon adhésion d'un jugement, ceci est, s'achève à la réalité connue et ne s'arrête pas à l'énoncé. Mais l'énoncé est nécessaire pour pouvoir adhérer. Alors, la dernière chose, elle est facile à comprendre. Dans la patrie, on verra la vérité première telle qu'elle est en soi, comme Saint Jean le dit. Lorsque Dieu se sera montré, nous serons semblables à lui et nous le verrons comme il est. C'est pourquoi cette vision aura lieu non par mode d'énoncé, mais par mode de simple intelligence. Per modum simplicis intelligentiae. Par mode, ne traduisons pas par mode d'appréhension, hein, mais par mode de simple intelligence. Espèce de... Il n'y a que là où il y a une espèce d'intuition qui sera cette vision. C'est pourquoi cette vision aura lieu non par mode d'énoncé, mais par mode de simple intelligence. Seulement par la foi, nous ne saisissons pas la vérité première comme elle est en soi, il n'y a donc pas la même raison. Donc vous voyez que cet article 2 vient montrer, après l'article 1er, comment l'objet de la foi, qui est la vérité première, va être reçu dans mon intelligence humaine. C'est donc le mode humain de la foi qui est montré dans cet article 2. Et le mode humain de la foi, donc chez le croyant, c'est un mode complexe. C'est un mode par mode d'énoncé. Et je ne peux pas supprimer ça. J'ai des questions, posez-les tout de suite, oui.
Est-ce que c'est pas déjà au niveau naturel avec ce qu'Aristote dit ? La chose connue par soi en elle-même. Et puis
exactement,
la chose connue...
tout à fait. C'est la même raison que prendra saint Thomas à propos de... Il le dira pour la connaissance de Dieu. Si je regarde Dieu en lui-même, il est absolument simple. Si je regarde Dieu par rapport à moi-même, je le connais à travers un raisonnement. Oui, quod modo. Mais alors ici, c'est plus précis, si vous voulez, parce que c'est essayer de comprendre que dans toute connaissance intellectuelle, il y a nécessairement un mode complexe. Or, la foi vient ennoblir mon intelligence, mais ne supprime pas mon intelligence, ma manière particulière de connaître. C'est la foi qui est communiquée à l'homme, et donc à une intelligence humaine. Si c'est la foi qui est communiquée à une intelligence humaine, eh bien nécessairement, c'est une foi qui va ennoblir l'exercice de mon intelligence humaine. Et comme l'exercice de mon intelligence humaine pour atteindre la vérité se fait par mode de composition et division, nécessairement, l'acte de foi va impliquer un mode de composition. Et donc l'énoncé. Pas d'autres questions ? Oui, dites.
Lorsque vous dites ennoblir l'intelligence.
Oui. Élever, surélever. Ennoblir dans le sens que mon intelligence devient divine. Par la foi, j'ai quelque chose de divin en moi. C'est dans ce sens-là que je suis ennobli. Oui. Ah oui, mais pas du tout de la même façon. Ennobli humainement. Tandis qu'ici, ennobli divinement. Surnaturellement. Au-delà de ma manière humaine de connaître. Oui. C'est la différence entre le lumen de la métaphysique et le lumen de foi. Le lumen métaphysique, hein, c'est mon habitus métaphysique, qui est vraiment une lumière, je suis tout à fait d'accord, c'est très vrai. Mais ça reste à un niveau acquis. J'acquiers la métaphysique, je deviens métaphysicien. Tandis que je ne deviens pas croyant, je reçois ça comme un don de Dieu. Mais je suis responsable de la croissance de ma foi. Et pour comprendre la croissance de la foi, il faut comprendre justement ce double aspect de la foi, le point de vue du caractère indivisible de cette lumière divine, et puis la complexité de mon énoncé de foi. Ah oui, ça c'est énorme. Reprenez cette question-là, je la prendrai la fois prochaine. Vous n'avez qu'à l'écrire sur un petit papier.